les jardinières.
Après plus d'un mois de vacances, nous voilà de retour, reposés et frais comme les roses. On vous accompagne durant une heure en parlant jardinage, bien sûr. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène et bonjour tout le monde.
Il était avec nous pour la DER avant la pause estivale. Il est là ce matin, à croire qu'il a squatté les studios tout l'été. C'est Fabrice Rondet. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Fabrice Rondet, vous êtes paysagiste à Porrentruy et propriétaire de Fabrice Rondet SARL. Merci d'être avec nous ce matin.
Alors certes, les vacances sont finies, mais la bonne nouvelle, c'est que les jardinières sont de retour et on est parti pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous.
7h, 8h, les jardinières.
Cette année, l'été a pris du repos, nous laissant avec température fraîche, orage et nuages. Le mois d'août touche presque à sa fin. Dites-nous Fabrice, que faire au potager ce week-end avec soleil au programme?
Alors, ce week-end, je m'excuse, j'ai un retour.
C'est la rentrée, tout va bien Fabrice, vous inquiétez pas.
Ça joue comme ça?
Oui, on vous entend très bien.
On vous entend, tout va bien.
Alors moi, c'est désagréable, donc je vais essayer de faire comme ça sans le casque. Alors ce qu'il y a, c'est que maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire toutes les récoltes. On a beaucoup de choses comme les courgettes, les concombres, on a tout ce qui est haricots, tout ce qui est aussi les patates qu'on peut sortir. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Ce qu'on va surveiller maintenant, c'est les cultures au niveau des tomates aussi, parce qu'on a de grands problèmes. Et puis par rapport à ça, il faudra veiller peut-être à enlever tout ce qui est gâté pour pas que ça contamine le reste des cultures. Et ensuite, par rapport à ça, on pourra se lancer aussi sur le nettoyage de certaines plates-bandes pour mettre en place les nouvelles plantations sur l'arrière de l'été, l'automne et voire même pour passer l'hiver.
Merci beaucoup Fabrice. Et vous avez remarqué, hein, Fabrice ne nous a encore pas parlé d'apéro. On a tenu 10 minutes dans l'émission. Vous êtes avec nous durant une heure pour répondre, bien sûr, Fabrice, aux questions de nos auditeurs qu'on attend par téléphone. Ça n'a pas changé. 0 900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également le faire par SMS. Il vous suffit de taper jardin, un espace, votre question. Vous nous l'envoyez au 939. Ou alors la troisième possibilité, c'est de passer par le formulaire qui est disponible sur notre site. Vous allez sous l'onglet émission, questions jardinière. Et là, vous pouvez même y joindre une photo.
Dans quelques minutes, nous nous intéresserons de près à vos gazons, comment s'en occuper en cette fin d'été pour avoir le plus beau au printemps prochain.
7h, 8h, les jardinières.
On ne peut pas dire que l'été ait été caniculaire et que les plantes aient manqué d'eau. Si on connaît les gestes pour s'occuper de son gazon après le soleil, comment ça se passe après l'été humide que l'on vient de vivre? Fabrice Rondet, paysagiste à Porrentruy, va nous aider et nous partager son savoir pour entretenir notre gazon. Alors Fabrice, on sait que l'arrosage est important pour les végétaux, mais cette année, l'arrosage a été automatique quasiment toutes les vacances. Trop d'eau, c'est aussi mauvais pour une pelouse?
Alors, pas forcément, parce qu'on peut avoir des sols qui soient bien drainants. Donc dans ce cas-là, ils vont évacuer très rapidement tout le surplus d'eau. Et puis on aura un gazon qui va se développer naturellement, avec même se remplir, même devenir beaucoup plus beau que ces dernières années à cause du sol qui se réchauffait beaucoup trop vite et qui faisait sécher nos gazons. Maintenant, par rapport à des sols qui seraient plus ou moins argileux, dans ce cas-là, oui, on pourrait avoir des problèmes parce qu'on pourrait avoir des surfaces qui jaunissent.
Mais alors, avec ces sols humides, Fabrice, comment se déroule la tonte du gazon? Quand c'est le bon moment pour sortir la tondeuse?
Alors en fait, on va se caler sur les mêmes réflexes qu'auparavant, sauf qu'il va pousser un peu plus vite, il va se densifier aussi mieux. Et ce qu'on va regarder pour faire, c'est entre deux averses, dès qu'il fait à peu près 8-10 cm de hauteur, on va le rabaisser à 4-5. En faisant comme ça d'une façon régulière, on a un gazon en général qui s'est vraiment bien formé sur toute cette première partie de la saison.
Alors là, les gazons, ils sont encore très beaux, enfin, magnifiques, bien verts. Est-ce qu'on va tondre notre gazon, comme vous venez de nous l'expliquer, à 400 cm, jusqu'au premier gel ou carrément jusqu'à la neige?
Alors ça dépend en fait des personnes qui vont avoir un entretien plus ou moins régulier et puis une terre plus ou moins riche aussi. Parce qu'une personne qui aura un entretien régulier, qui aura mis un petit peu de l'engrais, une terre riche, son gazon il va pousser un peu plus longtemps. Donc bien sûr, ça dépend aussi de l'altitude à laquelle on se trouve. Mais par rapport à ça, les tontes en fait, elles vont s'arrêter avec les dernières tontes qui seront plutôt de nettoyage, qui peuvent se décaler gentiment dans les années, comme on le voit ces derniers temps, jusqu'à octobre, voire même novembre. Donc, nos gazons, on va en fin de saison les rabattre jusqu'à justement ces 4-5 cm en prenant soin aussi d'enlever toutes les feuilles mortes pour qu'il n'y ait pas de pourrissement dessus pendant la saison hivernale.
On lit également, Fabrice, un peu partout, qu'il est conseillé de scarifier son gazon en fin d'été. Est-ce qu'on peut déjà le faire maintenant ?
Alors là, on a lancé le processus, effectivement, parce que maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a les terres qui sont vraiment très chaudes par rapport au printemps. On a vraiment un gros décalage. Par rapport à ça, donc, ce qui va se passer, c'est que on aura une réactivité qui va se mettre en place tout de suite après le travail de scarification et le sursemis qu'on aura mis en place. Tandis que ce qu'on avait avant, la terre était un peu froide, comme on avait avec ces températures qu'on n'a pas pu profiter, avec ces pluies qui étaient sans cesse présentes. Donc, du coup, maintenant, c'est vraiment le bon moment pour réparer les surfaces qui auraient un peu souffert ou qui n'étaient pas très jolies d'entrée de jeu.
7h, 8h, les jardinières.
L'été ne nous a pas tellement permis de se prélasser sur son gazon ou de l'entretenir comme les autres années. Du coup, mauvaises herbes et mousses ont poussé partout et envahi notre espace vert. Fabrice Rondet, paysagiste à Port-en-Truite, dites-nous, si on veut retrouver un joli gazon en santé, on retire ces mauvaises herbes, on fait ça genre à quatre pattes et on enlève tout à la main, ou est-ce que vous avez des meilleurs conseils pour nous ?
Alors, on peut avoir déjà un premier travail de base où c'est qu'on peut engraisser son gazon régulièrement. En faisant ça, on va remonter le taux de fumure et de là, on va favoriser le développement des graminées et faire reculer un petit peu la mauvaise herbe. Donc ça, c'est déjà la première lutte. Pour ça, on a des engrais qui sont bio, donc complètement avec donc aucun, pas de traces de chimie dedans. Puis après, on a des engrais traditionnels. Après, pour ce qui est du travail, effectivement, on peut avoir un travail qui soit manuel si on n'a pas beaucoup de mauvaises herbes, on a quelque chose qui soit assez facilement localisable, facilement aussi enlevable. Donc là, on peut y aller avec des petits outils spéciaux ou alors avec un couteau, c'est qu'on va chercher, couper, sectionner le fond de la racine, retirer ça. Et puis après, bien sûr, on a le travail avec des herbicides sélectifs qui vont, comme leur nom leur indique, cibler vraiment des familles bien précises et épargner tout notre gazon.
Mais alors, on le remarque, hein, on est quand même plus proche de la fin de l'été, donc l'automne approche à grands pas. Quels soins il faut apporter à son gazon maintenant pour lui permettre de passer sans souci les saisons froides qui arrivent ?
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place, comme on a dit, ce programme de scarification, si cela nous intéresse. Donc on aura mis ces derniers temps, ou maintenant encore, un herbicide sélectif en place. On va le laisser réagir. Ensuite, on va mettre une scarification. On va faire un sursemis avec de préférence un mélange de qualité et adapté justement pour remplir, pour regarnir ces surfaces engazonnées. Le grammage sera important aussi. Puis après, on va mettre un engrais qui fera office d'accompagner ce développement du gazon qu'on vient de ressemer et du gazon déjà existant pour le renforcer au maximum jusqu'aux premières fois qui vont arriver pour qu'il démarre le début de la saison correctement.
Alors, pas mal de travail qui attend les amateurs de gazon. Les températures et le temps ne nous ont pas permis de profiter du gazon. Par contre, les taupes, elles, ont trouvé sympathique de venir. Alors, deux questions, Fabrice. Est-ce qu'on peut se débarrasser des taupes ? Et une fois la taupinière sortie de terre, comment faire pour retrouver son gazon ? Alors déjà, est-ce qu'on peut se débarrasser des taupes sans les faire exploser ?
Alors oui, ça c'est possible. Donc on a tout un tas de petits trucs aussi qui se proposent à nous. On a bien sûr les pièges mécaniques. Il y en existe différentes formes sur le marché. On a aussi des choses qui sont des fumigènes ces gaz vont s'enfiler, vont suivre toutes les galeries pour se mettre dans les petites chambres où c'est qu'elles logent, soit pour se reproduire, soit pour mettre leur réserve. Donc en général, quand on parle de taupes, on pense plutôt aux campagnols, à ces choses-là qui sont vraiment plus négatifs. Et puis après, dernier sort, on a des poisons, on a des choses comme ça, mais qui sont peut-être moins bien indiquées pour lutter. Puis après, on a même aussi de la chimie. Mais à ce niveau-là, je pense qu'il faudrait plutôt commencer par faire avec les pièges mécaniques.
Et puis une fois la taupe qui a sorti sa taupinière, ça fait ce tas de terre qui n'est pas très joli sur le gazon. Comment on fait ? On retire cette terre, on ratisse, on resème ?
C'est exactement ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va niveler tous ces petits tas de terre, si on a, si c'est vraiment des taupinières. On va niveler tout ça, on va enlever l'excédent et on va faire une retouche de gazon. Après, ce qui peut être plus délicat, où c'est qu'on doit se veiller peut-être, c'est aussi si on a un terrain qui a vraiment été attaqué, qui a vraiment été envahi par ces rongeurs. C'est les galeries qu'ils présentent, en fait, sur tout le tracé de votre gazon, qui pourraient, sous nos talons, par exemple, s'enfoncer. Et là, c'est un peu plus délicat pour remettre ça de niveau et consolider tout ça.
Fabrice, pour terminer sur ces gazons, est-ce que vous avez un dernier conseil ou une petite astuce à vous, bien à vous, pour avoir le plus beau des gazons ?
Ben en fait, je pense que c'est simple. Pour avoir un beau gazon, la meilleure des choses, c'est d'avoir une tondeuse bien affûtée, de tondre régulièrement, pas laisser monter plus haut que 8-10, pas rabattre plus haut que 4-5. Et puis après, vous mettez en place en 3 à 4 selon les saisons, un apport d'engrais, justement de préférence bio. Et comme ça, vous allez remonter votre taux de fumure, vous allez entretenir ces surfaces et vous allez faire une sélection, une concurrence naturelle avec votre gazon, ce qui permettra d'avoir un joli gazon. Et puis en plus de ça, vous allez développer un système racinaire qui va vous permettre de lutter contre le stress hydrique, toutes ces choses-là sur les années à venir.
Merci beaucoup Fabrice, voilà de quoi occuper les jardiniers pour les semaines à venir. On va se retrouver dans quelques minutes pour répondre à vos questions. D'ailleurs Raphaël, peut-être on pourrait vite glisser comment nous joindre.
Mais oui, avec plaisir, 0 901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous nous appelez, vous êtes en direct avec notre professionnel et vous lui posez votre question. Et si vous êtes un peu plus timide, vous pouvez utiliser l'option SMS. Il vous suffit de taper un message jardin, un espace, suivi de votre question et de nous l'envoyer au 939 ou d'aller sur notre site internet où vous attend le formulaire sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Les jardinières.
Les jardinières sont de retour et vous accompagnent jusqu'à 8h. Si des questions jardinage vous brûlent les lèvres, c'est le moment. Fabrice Rondet, paysagiste à Porrentruy et propriétaire de Fabrice Rondet SARL, répond à toutes vos questions, en tout cas toutes vos questions jardinage.
Exactement, et vous n'hésitez pas à nous les envoyer par SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question bien détaillée. Vous nous envoyez ce SMS au 939. Vous pouvez le faire par le formulaire internet disponible sur la page des jardinières et sur notre site internet. Surtout. Et là aussi, on se lâche sur les détails, on veut tout savoir et vous pouvez même y ajouter une photo. Ou alors vous faites comme Simone ce matin qui a choisi le 0 901 70 20 20 pour poser sa question à notre professionnel Simone qu'on accueille tout de suite. Bonjour Simone.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous Simone?
Ça va bien et vous?
Mais écoutez, très bien. Votre question pour Fabrice Rondet.
Alors écoutez, j'ai des géraniums, des grands géraniums, ça fait 3-4 ans que je les ai. Et puis, l'automne, je les coupe un petit peu, je les mets dans une véranda. Et puis, quand il faut les mettre dehors, je les mets dehors. Mais cette année, mes géraniums, ils ont attrapé des feuilles toutes blettes et puis un petit peu brunes. Ils n'ont pas soif, mais ils dépérissent, quoi.
Alors, bonjour Simone, tout d'abord. Donc, le truc qu'il y a, c'est que cette année, vous êtes, je pense, victime un petit peu comme tous ceux qui ont fait des jardins fleuris ou potagers. On a un taux d'humidité qui est très, très, très important, avec aussi des pluies qui étaient incessantes. Donc, ça combiné avec l'arrosage qu'on apporte, peut-être des plantes très touffues avec une belle végétation où c'est que l'air circule mal. Et puis, on va avoir des plantes, justement, qui peuvent mal le supporter avec des dessèchements, des pourrissements, des maladies qui se développent. Donc, ce qu'il faudrait, c'est enlever toutes les parties qui sont malades, qui se comportent mal pour aérer un peu la plante et profiter de l'arrière-saison maintenant pour la reconstruire, pour que vous puissiez la mettre en hivernage pour la redémarrer correctement au printemps. Vous pourriez faire un petit apport de terre, un petit peu d'engrais aussi pour rebooster le système racinaire et ça devrait se corriger.
De l'engrais, j'ai déjà mis. Mais si je la coupe à une certaine hauteur, ça veut repartir ou bien je la laisse comme ça jusqu'à cet automne avant de la couper? Ben, je la coupe un petit peu avant de la mettre dans la véranda.
Moi, ce que je ferais, c'est que, sans la voir, c'est que effectivement, j'enlèverai déjà toutes les parties qui sont malades, comme on a vu. Mais en plus de ça, on pourrait la tailler un petit peu, mais légèrement, pour qu'elle se ramifie, pour la renforcer avec ce petit apport d'engrais que vous avez fait pour vraiment la fortifier, pour la préparer à cet hivernage.
Alors, d'accord. Alors, je vous remercie beaucoup.
Merci de votre appel, Simone.
Un bon week-end.
Merci, un tout bon week-end à vous.
Merci.
Merci beaucoup. Bonne
merci.
On va continuer en musique, messieurs, si vous le voulez bien, et mesdames qui nous écoutez.
Et puis c'est surtout pour laisser le chat qui est dans la gorge de notre invité, de notre professionnel, de gentiment aller se recoucher, de ronronner un petit peu tranquillement, à mon avis.
Et puis juste après le titre, nous allons parler des tomates qui ont beaucoup, beaucoup souffert cet été.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. On a reçu pas mal de questions, déjà quelques-unes durant les vacances et encore ce matin. Et toutes ces questions parlent des tomates. Alors on va revenir sur ces questions et ensuite Fabrice va nous aider à peut-être sauver ce qui peut être sauvé. Alors la première question, c'est celle de Christophe de Kourou qui nous dit « Depuis longtemps, je cultive chaque année avec succès des tomates sous serre, donc protégées du froid. Elles sont arrosées régulièrement et j'ai fait un traitement au cuivre vers mi-juin. Curieusement, cette année, alors que la récolte s'annonce belle, les feuillages ont commencé à sécher depuis peu. » Ça, c'est la question de Christophe. Pierre nous dit qu'il nous demande comment soigner ces tomates où les tiges deviennent brunes et même les tomates reçoivent des taches et ensuite pourrissent. Et puis enfin, Isabelle de Grandval nous parle également de ces tomates qu'elle a dû récolter à cause du mildiou et sont donc vertes. Que dois-je faire pour qu'elles mûrissent et deviennent rouges? Merci pour votre réponse. Belle journée. Alors Fabrice, si on reprend dans l'ordre, c'est pas une belle année hein, pour les tomates.
Alors loin de là, loin de là. Alors effectivement, pour les tomates, cette année, c'est un peu la catastrophe. Peu ont des cultures qui se développent bien. Maintenant, ce que j'ai pu observer aussi certaines choses quand même, c'est les cultures qui étaient en pot, qui étaient adossées à des façades, sous abritées par un avant-toit. Ça fonctionne mieux. Ça doit être lié à la chaleur aussi de la façade qui redonne sur la plantation. Et puis après, ce qui fonctionne bien aussi par rapport à ça, c'est de nouveau d'avoir un petit apport nutritif pour avoir un bon système racinaire, pour fortifier la plante. Mais après, pour tout ce qui était, c'est vrai, en plein air, ou bien sous abri, ou encore sous serre, là, on rencontre de très très gros problèmes, et puis ça, d'une façon très générale. Donc, si on reprend la photo que Christophe nous a envoyée, ce que je peux constater là-bas dessus, c'est qu'effectivement, il était donc sous une serre, mais j'ai plutôt l'impression que c'est un abri d'après les tubes de la serre et le système, parce que je reconnais ce système de montage. Donc moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que on est lié à un problème d'humidité trop important qui a nui à sa culture. Maintenant, ce que je peux observer aussi, c'est que ces tomates, ils les taillent pas. Donc c'est vrai qu'il y a deux écoles, on taille ou on taille pas. Moi, je pense que tailler, c'est bien parce qu'effectivement, on a l'air qui peut mieux circuler et qui, justement, va lutter facilement, naturellement, contre, justement, le développement des maladies. Par rapport à ça aussi, on peut avoir accès à ces tomates et on va avoir aussi des plantes qui se développeront et qui nous permettront de cueillir être plus aisés. Mais c'est surtout par rapport à cet air qui va circuler, qui va permettre justement à baisser un petit peu ce taux d'humidité qui pourrait être constant dans la plantation. Maintenant, sous serre, c'est pareil. Ce qu'il faut faire attention sous serre ou sous tunnel quand on ferme, c'est qu'on peut avoir un taux d'hygrométrie qui est assez haut et qu'on contrôle mal et qui va développer ces problèmes de mildiou. En plein air, ben voilà, on a la pluie directe et ensuite on a le taux d'humidité qui était là en permanence tous les jours pendant cette première saison. Maintenant, dans l'arrosage aussi, il ne faut en tout cas pas mouiller le feuillage, donc ça serait bien. Et ensuite, par rapport à ça, ce qu'il y a à faire maintenant, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est vrai qu'on a différents stades selon les personnes de mildiou qui s'est mise en place. À des places, on a pu arracher complètement les plants de tomates. Donc en faisant ce travail, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner les fruits et puis les mettre dans des caisses avec du papier journal, éventuellement une pomme pour faciliter le mûrissement des fruits, puis on pourra les consommer. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont dans un état tellement atteint qu'on peut tout arracher, tout mettre au compost.
Fabrice, je me demandais des tomates qui sont atteintes de mildiou. Est-ce qu'on peut couper le morceau de la tomate qui n'est pas beau et manger le reste ?
Alors si c'est une faible attaque, si c'est juste une partie du fruit qui est à peine marquée, oui, on peut le faire. Mais c'est en coupant votre fruit que vous allez voir si justement le cœur, la chair est bonne à manger ou pas. Après, on le voit tout de suite parce qu'on a des décolorations, on a un fruit qu'on voit qui n'est pas sain. Donc dans ce moment-là, vaut mieux pas le manger.
Fabrice, vous, en tant que professionnel, quand vous voyez un peu cet été pour les tomates, qu'est-ce que vous pourriez donner à nos amateurs de jardinage comme conseil pour justement pas que ça se reproduise l'année prochaine? Surtout, c'est ça finalement, comment on peut se projeter sur le futur?
Le problème qu'il y a, c'est qu'on peut guère donner de conseils, malheureusement, parce qu'on est bien mal avisé pour dire l'année prochaine, je vais réussir ma culture de tomates. Moi, par exemple, ça fait des années que je fais ça. Et cette année, sur une cinquantaine de pieds de tomates, le week-end dernier, j'en ai mis une bonne grosse trentaine au compost. J'ai récolté tout ce que je pouvais récolter, puis tout le reste est parti au compost aussi. Mais il me reste le sol d'une vingtaine de pieds de tomates qui était justement adossés à des façades qui, elles, sont magnifiques. Donc, l'année prochaine, ce que je sais que je vais faire, moi, c'est que je vais veiller à peut-être mettre plus de distance entre les plantes qui sont sous ces abris, la même chose que Christophe. Je vais mettre plus de distance entre les plants et je vais regarder pour suivre la taille comme je le fais d'habitude pour que j'ai un maximum d'air qui circule. Et puis après, c'est la saison qui va décider avec les pluies qu'on a, le taux d'humidité, la chaleur qu'on a qui va décider de la réussite ou non de tout ce qu'on aura mis en avant.
Merci Fabrice. C'est vrai que le jardinier reste quand même très tributaire du temps. Mélangez les cultures un peu dans le jardin, un peu en pot, un peu partout. Comme ça, vous aurez une chance d'avoir quelques tomates. On va se retrouver juste après une dernière pause musicale.
7h, 8h, les jardinières.
Dernière partie des jardinières. Bah oui, il est déjà 7h51. On est ensemble jusqu'à pas tout à fait 8h. Alors Fabrice, on va parler d'origan. On a une question qui nous dit « J'ai une petite plante d'origan, j'aurais aimé savoir si elle repoussera toute seule l'année prochaine. Si oui, que dois-je faire pour avoir mon origan au printemps ?»
Alors, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait, parce qu'effectivement, ça fait partie des plantes aromatiques vivaces. Donc, qu'elles soient plantées dans un pot, dans une petite terrine, ou bien alors dans des bacs, un aménagement ou en pleine terre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement la tailler un petit peu pour profiter de récupérer un maximum de choses pour la cuisine. Et puis après, il va rester quelque chose comme 3 à 5 cm de petites pousses, bien la localiser, et puis elle passera l'hiver sans problème pour redémarrer au printemps prochain.
Merci beaucoup Fabrice, on en profite. On parlait il y a quelques instants de tomates, on va vite rapidement prendre cette question. Nous avons un pommier et la récolte risque d'être bien maigre cette année. Comment savoir quand les pommes sont mûres avant de les retrouver fichues au sol?
Alors maintenant, par rapport à tous ces fruits qui sont en train de tomber, soit parce qu'ils ont été chenillés, comme on dit dans la région, soit parce qu'ils pourrissent, parce que justement ils ont développé des maladies et puis ils n'arriveront pas à maturité. Donc maintenant, il ne faut pas se hâter d'aller ramasser des fruits qui sont pas à maturité, parce que ça sera pas bon à manger. Et puis si on les prend puis qu'on essaie de les conditionner comme ça, on n'arrivera jamais à un moment de maturité qui soit idéal pour avoir aussi une bonne valeur aromatique du fruit. Donc maintenant, si le fruit se développe correctement sur les prochaines semaines jusqu'au moment de la cueillette, ce qu'on peut faire, c'est que tout simplement à un moment donné, on va voir que les fruits, ils ont pris de la couleur, ils sont jolis à regarder. Donc à ce moment-là, y en a 2-3 qui veulent commencer de tomber. Ce qu'on peut faire, c'est on peut tout simplement prendre le fruit dans la paume de la main, et puis on peut poser l'index sur le pédoncule et on fait juste un petit mouvement contre le haut. Si le fruit est mûr, on a un point de cicatrisation qui va s'opérer entre le pédoncule et la branche. Et puis à ce moment-là, le fruit va se détacher tout naturellement. Ça veut dire que la paume est mûre et puis qu'on peut commencer la récolte. Mais pas commencer de tourner, de forcer pour arracher le fruit à sa branche.
Ou secouer l'arbre, ça ne sert à rien.
Non.
Merci beaucoup Fabrice. En première partie d'émission, vous nous avez parlé de l'entretien de nos gazons, conseils à retrouver en cours de matinée sur notre site, sur la page des jardinières. Et puis avant de vous laisser filer, Fabrice, avez-vous quelques conseils généraux pour les jardiniers qui rentrent de vacances maintenant ?
Alors le conseil maintenant, c'est plutôt ce que tout le monde a observé, comme on discutait un petit peu avant entre deux, c'est que tout a très bien poussé, surtout la mauvaise herbe. Donc c'est de s'atteler à ça, parce que c'est vrai que c'est le moins motivant dans un jardin que de se mettre au désherbage. Et puis après de préparer ces surfaces pour les plantations d'automne, d'hiver, parce que c'est quelque chose qui est très important pour la terre, de la garder couverte par des plantations, et on aura un grand plaisir aussi d'essayer de retrouver tous ces légumes dans l'arrière-saison et un peu plus tard en frais plutôt que éventuellement de devoir en acheter. C'est toujours bien de consommer ce qu'on produit.
Fabrice, pour justement ces personnes qui rentrent de vacances, c'est quoi le premier réflexe à avoir quand on revient de vacances? Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont encore rentrer ce week-end. C'est quoi le premier réflexe au jardin? De contrôler si tout est bien encore humide? Quels sont les premiers trucs à aller regarder?
Alors effectivement, je pense que maintenant, les premières choses qu'on fait tous quand on a un petit coin de jardin, c'est qu'on va regarder dans quel état il est au niveau 1 des mauvaises herbes, on constate avec stupeur, ou bien alors ça va encore. On regarde vite pour faire le tour de tout ce qu'il y a à récolter, parce que maintenant on a des choses avec les températures et l'humidité qu'on a qui vont très vite, si on pense aux courgettes, si on pense aux concombres, à ces choses-là. Et puis après, on regarde aussi tout ce qui est à remettre en place ou à arracher ce qui était malade. Ou alors ce qui n'a plus de lieu d'être.
Fabrice Rondet, on rappelle que vous êtes paysagiste à Port-en-Truil et propriétaire de Fabrice Rondet SARL. Merci d'avoir été des nôtres ce matin et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et à celles de nos auditeurs. On vous souhaite un bon week-end, on vous dit à bientôt.
Alors, merci aussi à vous et puis un bon week-end à tout le monde.
Merci Fabrice. Les jardinières vous donnent rendez-vous samedi prochain dès 7h. Nous serons en compagnie d'Olivier Ribaud, paysagiste à Queuves. Et n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions jardinage quand vous le souhaitez, soit par SMS, soit via le formulaire disponible sur notre site. À samedi prochain. Bon week-end Raphaël.
Bon week-end Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous.
7h, 8h, les jardinières.